en espérant que cette année T1 se passe mieux que l'année 2020. Alors, nous procédons à la désignation d'un secrétaire de séance. Je propose Monsieur Patrick Farr. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Je vous fais état des procurations. Monsieur Anthony Briga a donné procuration à Kevin Buck. Monsieur Pascal Gilles donne procuration à Sylvette Gilles. Nous avons eu aussi un certain nombre de remerciements. Donc la famille Andrieux, Josette son épouse, Marie-Christine sa fille, Jacques son gendre, Fanny et Manon ses petites filles, Pierre, Léon son arrière-petit-fils et toute la famille. Je vous remercie bien sincèrement par notre présence, nos pensées, nos envois de fleurs et autres marques d'affection que nous leur avons témoigné lors du décès de Gilbert Andrieux. Madame Geneviève Martin nous écrit que la famille a été sincèrement touchée de la sympathie que nous leur avons témoigné suite au décès de son époux Michel Martin. Également de la part de la famille Chave, Monique Chave, Françoise Bultez, Philippe Bultez, Guillaume Chave, Pierre et Camille Chave, nous remercions pour les marques de sympathie et d'amitié témoignées lors du décès de William Chave. Messieurs Daniel et Laurent Martin tiennent à remercier les services municipaux pour l'aide apportée dans l'organisation des obsèques de leur maire Simone Paillot. Grâce aux installations municipales, notre maire, disent-ils, a pu bénéficier d'un caveau provisoire durant une semaine dans l'attente de la construction de sa concession, enfin sur sa concession de son propre caveau. Les services techniques ont procédé au nettoyage de celui provisoire avant l'inhumation et ceci a contribué à rendre moins douloureuse cette étape provisoire. De même, il souhaite remercier Bernadette Porté qui, comme à son habitude, a su trouver les mots justes entre bienveillance et professionnalisme pour apporter le soutien dans les échanges et faciliter les démarches réglementaires. Voilà, vous avez eu le procès-verbal de la séance précédente. Est-ce que nous pouvons l'adopter ou y a-t-il des remarques ? Monsieur Brancorsi.
C'est une remarque.
Ah, vous prenez le micro, sinon vous ne serez pas. Oui, mais. Le problème, c'est que. Attendez, excusez-moi, le problème, c'est que les propos sont enregistrés, voilà.
C'était juste. J'ai remarqué, mais je ne sais pas si vous avez fait la même remarque que moi. Le dernier point, qui n'était pas d'ailleurs à voter, a été. On a passé à l'AS, parce que la discussion est partie comme ça, concernant vos délégations. Je ne sais pas si quelqu'un l'avait remarqué. On n'a pas parlé de votre dernier point, mais ce n'est pas grave, parce que ce n'était pas à voter. Je vous le dis seulement pour
la remarque. Oui, effectivement. Voilà. On aurait pu en faire état.
Voilà, c'est tout simplement ça. Et si vous permettez, puisque le micro de ce moment, je voulais seulement vous dire une chose. D'abord, merci pour vos voeux, parce que je n'ai pas pu le dire. Mais pour vous dire allusion justement au décès tout à l'heure, et je voulais savoir si vous avez été frappé, comme moi, par le nombre de décès qu'il y a eu donc, dans ce second semestre. Donc, moi, je regarde toujours ça avec attention et je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Savez-vous si ces personnes-là ont été touchées par le Covid, par la Covid ?
Alors non, en tant que je me suis fait effectivement la même réflexion pour voir effectivement s'il y avait un impact du Covid sur les habitants de notre commune. Mais a priori, on ne sait pas forcément la cause du décès. Donc c'est probable parce qu'il y a vraiment une augmentation significative par rapport à l'année dernière, mais on ne peut pas non plus l'établir avec assurance. Ok, alors, donc je mets en voie le procès verbal sous réserve que l'on indique le dernier point. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Et nous passons à l'ordre du jour avec le dossier numéro 1, autorisation confiée au maire pour engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2020, rapporteur Liliane Diaz.
Monsieur le maire expose que l'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi numéro 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 37, dispose que, dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget primitif ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. Il est proposé au conseil municipal de permettre à monsieur le maire d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement d'un montant de 453 500 euros avant le vote du budget primitif 2021. Ces dépenses n'excèdent pas 25% des crédits ouverts sur les dépenses réelles d'investissement de l'exercice 2020, qui étaient de 1 929 520,03 hors chapitre 16 afférent au remboursement de la dette, soit un montant maximal de 482 300 euros. Le conseil municipal est donc amené à approuver l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement avant le vote du budget, qui devra intervenir au plus tard le 15 avril 2021. Vu l'avis de la commission des finances réunie le 18 janvier 2021, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement à hauteur de 453 500 euros jusqu'à l'adoption du budget primitif 2021. Il est précisé que ce montant n'excède pas 25% des crédits ouverts sur les dépenses réelles d'investissement de l'exercice 2020, qui était de 1 929 520,03 euros hors chapitre 16 afférent au remboursement de la dette, soit un montant maximum de 482 300 euros. Les ouvertures de crédit sont réparties sur les imputations suivantes. Compte 202, frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme, 1 000 euros. Compte 2031, frais d'études, 2 000 euros. Compte 2033, frais d'insertion, 1 000 euros. Compte 2051, concessions et droits similaires, 4 000 euros. Compte 213-12, construction sur bâtiment scolaire, 90 000 euros. Compte 213-18, construction autres bâtiments publics, 20 000 euros. Compte 215-34, réseau d'électrification, 10 000 euros. Compte 21-538, autres réseaux, 10 000 euros. 21-58, autres installations, matériel et outillage technique, 18 000 euros. Et enfin, 23-15, 30 travaux en cours, installations, matériel et outillage technique, 297 500 euros, ce qui fait un total global de 453 500 euros.
Merci. Y a-t-il des questions ? Eh bien, s'il n'y en a pas, nous allons passer aux voix. Qui est contre ? Donc, le groupe Ensemble pour Camaret. Qui s'abstient ? Alors, attendez, vous abstenez, Monsieur Savin, et les autres membres votent contre. OK. Adopté à la majorité. Dossier numéro 2. Maison des vins et des produits du terroir, convention avec la communauté de communes Aigouvaise en Provence, avenant numéro 1. Dans le cadre des travaux opérés par la commune de Camaret concernant la requalification de son entrée de ville et plus particulièrement la réhabilitation de l'îlot bâti si entre la place de la Poste et l'avenue Fernand-Gonnet, il est prévu l'installation au rez-de-chaussée du bâti conservé d'un espace à vocation touristique dénommé Maison des Vins et des Produits du Terroir, composé d'un espace d'accueil du public de 30 mètres carrés environ et d'une partie à usage administratif de 25 mètres carrés environ. La communauté de communes étant compétente en ce qui concerne le développement touristique sera gestionnaire de cet ensemble sur la base d'une convention de mise à disposition ou d'un bail concédé par la commune. La communauté de communes et la commune de Camaret ont manifesté leur volonté de réaliser une opération de travaux unique et une convention a été signée en date du 2 décembre 2019 sur la délibération du 14 novembre 2019 qui prévoit les modalités administratives, techniques et financières du projet en raison d'une modification dans la prise en charge respective des travaux entre la communauté de communes et la commune, il a été convenu une nouvelle clé de répartition financière des travaux et le transfert de la maîtrise d'ouvrage à la communauté de communes pour les travaux intérieurs, selon l'article 5.2 de la convention modifiée par l'avenant, 6 juin en annexe. Par ailleurs, l'article 5.1 est également modifié afin de réduire la période de mise à disposition gracieuse du local par la commune à la communauté de communes de 5 à 3 ans. Au-delà de cette période, la mise à disposition fera l'objet d'un bail à titre onéreux. Alors, donc, la nouvelle répartition financière, démolition, grosses œuvres, charpente et couverture des façades, participation de la communauté de communes 0 pour la commune 307 565 €. Pour les abords, les terrasses et la pergola, communauté de communes 27 500 €, commune de Camaret 0. Pour les travaux de menuiserie et de devanture, pour la communauté de communes 20 750 € et pour la commune 60 580 €. Ce qui nous fait un total hors taxe de 48 500 € pour la communauté de communes et de 367 945 € pour la commune. Vu le budget de la commune et vu l'avis de la commission des finances réunie le 18 janvier 2021, il est demandé au conseil municipal d'approuver les modalités fixées par l'avenant numéro 1 à la convention signée le 2 décembre 2019, d'autoriser M. le maire à signer l'audit avenant à toutes les pièces afférentes à ce dossier. Voilà, je pense que vous l'avez sans doute compris, comme de toute façon c'est la communauté de communes qui va utiliser ce local, autant qu'elle ait la maîtrise elle-même des aménagements qui vont y être faits, alors qu'au départ on avait prévu que c'était plutôt la commune qui le faisait, mais sur le plan financier c'est une opération tout à fait neutre. Je vous indique aussi que peut-être que nous aurons la joie, le plaisir et l'avantage d'avoir une fenêtre médiatique par le biais de TF1 qui vient faire un petit reportage demain matin lors de la réunion de chantier, donc sur place, place de la Poste. Voilà, je referme la parenthèse. Y a-t-il des questions ? Monsieur Moncorsini.
Allô ? Juste savoir si le montant de 367 000 et 48 000 en plus, qui ferait un tout à peu près 400 et quelques mille, c'est le total final de l'investissement pour cette maison des vins et du tourisme, ou c'est juste une première tranche ? Une troisième, je ne sais pas.
Non, en fait, le total de tout ce tableau, c'est-à-dire les 367 945 plus les 48 500 qui font 416 445, si mon calcul est bon, c'est le total des travaux sur le bâti.
D'accord. Sur l'ensemble du bâti. Ça veut dire que l'équipement, tout ça, c'est à prévoir en plus. Hein, ce qu'il faudrait mettre à l'intérieur, le mobilier, voilà. La peinture, oui. Tout ça. Ouais, donc, oui. Pour l'instant, on n'a pas de chiffres concernant le montant final.
Alors, les 48 500 de l'intercommunalité concernent le prorata de tous ces travaux qui sont faits sur le bâtiment, qui concernent la maison des vins et des produits du terroir. Dans ce chiffre, vous avez l'aménagement intérieur, plaquage, sol, plafond, réseau électrique, interrupteur, plomberie, etc., qui sont dans ces 48 500 euros et qui seront donc sous la maîtrise d'ouvrage et payés directement par l'intercommunalité. Et ensuite, l'intercommunalité agencera les meubles, les présentoirs, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait cette opération, parce qu'ils avaient choisi un architecte d'intérieur pour cet agencement mobilier. Et on s'est dit que dissocier l'aménagement intérieur de l'aménagement mobilier, ça risquait de créer des confusions.
Ma question est beaucoup plus simple que ça. ça, monsieur Royer, vous ne connaissez pas la tête. Non, ma question, c'est de savoir quel va être le montant total et final dans la, pour cette maison de vins et des producteurs.
Pour l'instant, on ne le sait pas, puisque l'intercommunalité.
Je veux dire par là qu'on aura l'occasion de voter des suppléments par la suite. Ma question, c'est tout simple.
A priori, non. A priori, non, parce qu'on a une. De toute façon, là, on a une tout ça, c'est de l'estimatif. Hein. Pour la maison des vins et des produits de terroir, puisque on connaît le coût de ce qu'a coûté le prorata, c'est-à-dire ce qui est déjà fait, les menuiseries, la devanture, etc. Après, l'aménagement intérieur, plus le mobilier, l'Interco est en train de préparer les marchés, donc on n'a pas encore le coût définitif.
Bon, on saura ça un peu plus tard. Merci beaucoup.
Oui, au mois de mars, je pense que ce sera certain.
Y a-t-il d'autres questions ? Alors, je mets aux voix. Ah, pardon, excusez-moi.
Non, ce ne sera pas une question, juste un petit clin d'œil, puisque j'ai vu que c'était dans la presse ce matin, donc c'est parfait. Je crois que la presse anticipe sur les conseils municipaux, c'est bien.
Parce que là, la presse reçoit l'ordre du jour, en fait. Donc, bon, c'est sûr que la presse, je ne vais pas parler en son nom, mais ça permet de faire savoir qu'il y a le conseil municipal. Il se trouve qu'on est en période Covid, donc on ne peut pas faire venir le public, mais c'est, quelque part, c'est aussi pour attirer le public, informer le public. Alors, je mise aux voix, qui est contre, qui s'abstient, le groupe Ensemble pour Camaret, délibération adoptée à la majorité. Dossier numéro 3, forfait communal pour les classes de découverte et les sorties pédagogiques, versement d'un acompte, rapporteur Sylvette Gilles.
Conformément aux articles L442-5 et R442-44 du Code de l'éducation nationale, qui précise que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public pour les élèves domiciliés sur leur territoire. Considérant que les sorties pédagogiques et classes de découverte des écoles publiques sont organisées sous couvert de l'amicale laïque, considérant que les sorties pédagogiques et classes de découverte de l'école privée Saint-Andéol sont organisées sous couvert de l'OGEC Saint-Andéol, considérant que l'équité entre écoles publiques et privées sur la commune implique de ne prendre en considération pour l'école Saint-Andéol que les élèves résidant sur Camaret-sur-Aigle et âgés de plus de 3 ans, considérant la nécessité de préciser les modalités d'attribution des aides aux classes de découverte et sorties pédagogiques, vu le budget de la commune, vu l'avis de la commission des finances réunie le 18 janvier 2021, il est demandé au conseil municipal d'approuver pour les classes de découverte l'attribution d'un forfait annuel de 15 € par unité et par élève dans la limite de 4 unités et d'une classe par groupe scolaire, soit un versement total de 60 € par élève, sur présentation d'un état de frais réellement engagé. D'approuver pour les sorties pédagogiques l'attribution d'une enveloppe de 30 € maximum par élève, répartie à hauteur de 5 € par sortie et de 2,50 € par intervention, sur présentation d'un état des frais réellement engagé. D'autoriser Monsieur le maire à verser un acompte à hauteur de 20, 40 ou 60% selon les sorties effectivement programmées de la subvention attribuée en 2019 à l'amicale laïque et à l'OGEC. Les crédits correspondants seront inscrits en section de fonctionnement à l'article 65-74 du budget principal 2021. Il est précisé que le versement du solde des subventions concernées fera l'objet d'une décision ultérieure après production des états réalisés.
Merci. Y a-t-il des questions ? Alors, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 4, garantie d'emprunt à 50% accordée à Grand Delta Habitat pour la construction d'habitations à loyer modéré, rapporteur René Sauverin.
Merci.
Grand Delta Habitat va procéder à une opération de construction d'un ensemble immobilier composé de 4 logements individuels situés sur la commune de Camaret-sur-Aigue, chemin de Rastaud, en vue de réaliser une opération locative dénommée le Clos des Mimousas. Pour financer cette opération, Grand Delta Habitat a sollicité auprès de la Caisse des dépôts et consignations les prix suivants. Un prêt PLUS travaux pour un montant de 386 241 euros au taux de 1,1 sur 40 ans. Un prêt PLUS foncier pour un montant de 118 506 euros au taux de 0,9 sur 60 ans. Un prêt PLAI travaux pour un montant de 116 565 euros au taux de 0,3 sur 40 ans. Et un prêt PLAI foncier pour un montant de 38 572 euros au taux de 0,9 sur 60 ans. Les caractéristiques de ces quatre lignes de prêt sont détaillées dans le contrat de prêt numéro 115 et 619, ci annexé. Dans ce cadre, Grand Delta Habitat sollicite de la commune une garantie d'emprunt à hauteur de 50% des sommes empruntées pour les prêts PLUS et PLAI. En vertu des articles L2252-1 et L2252-5 du Code général des collectivités territoriales, la commune a la possibilité d'accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration des logements sociaux réalisés par les organismes d'habitation à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte. La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du CGCT, vu l'article 2298 du Code civil, vu la demande formulée par Grand Delta Habitat, vu le contrat de prêt numéro 115 et 619 en annexe, signé entre Grand Delta Habitat ci-après l'emprunteur et la CDC relatif aux prêts PLUS et PLAI, vu l'avis de la Commission des finances en date du 18 janvier 2021, il est demandé au Conseil municipal d'accorder une garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 659 884 euros souscrit par Grand Delta Habitat auprès de la CDC selon les caractéristiques financières aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 115 et 619 constitué de 4 lignes du prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. Il convient de préciser que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts et jusqu'au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur Grand Delta Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la CDC, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant aux bénéfices de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Le Conseil s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des prêts, d'autoriser M. le maire à signer la convention relative à cette garantie d'emprunt et tous les documents s'y rapportant. Non, j'en ai encore une autre.
Est-ce qu'il y a une question?
Oui,
monsieur Savin.
Monsieur le maire, lors de la dernière campagne électorale pour les municipales, vous insistiez sur le fait que l'équipe en place à la mairie avant votre élection, en garantissant un emprunt de Mistral Habitat pour la construction de logements à loyer modéré rue Alphonse Daudet, mettait les finances de la commune en situation périlleuse. Aujourd'hui, vous nous demandez d'accorder des garanties d'emprunt à 50% pour l'un et 100% pour l'autre, pour la construction de 4 logements à loyer modéré chemin de Rastaud, projet du Grand Delta Habitat. Comme quoi, il faut bien cautionner ces emprunts, car dans le cas contraire, ces logements ne verraient pas le jour, comme l'a bien spécifié M. Bailly lors de la Commission des finances lundi dernier. Vous convenez enfin qu'il est nécessaire et obligatoire de se porter garant pour que nos camarades puissent bénéficier de logements à loyer modéré. Je ne suis pas, et nous ne sommes pas contre ce projet, bien au contraire, mais des questions se posent. La première sera, nous nous demandons s'il y a une forte demande de logements à loyer modéré sur la commune. Avez-vous une liste d'attente, est-ce principalement pour des familles camarétoises?
suis ravi de, je ne vous cache pas, mon plaisir, le plaisir que j'ai à répondre à cette question. Je pensais que vous ne la poseriez pas, parce que, bon. Alors écoutez, ben oui, mais on est là pour débattre. Alors, dans le cas des logements sociaux de l'entrée de ville, il y a énormément de différences par rapport au cas qui nous occupe. Déjà, en ce qui concerne l'opérateur, Grand État Habitat, anciennement Vaucluse Logement, ce n'est pas du tout, on n'aura pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, mais il sera l'habitat. Mais ce sera l'habitat, donc c'est eux qui ont mis en place ces logements en entrée de ville, qui ont essayé en tout cas, avec une connotation extrêmement politique, Mistral Habitat dépendant du Conseil Général, à l'époque on appelait ça le Conseil Général, socialiste, direction socialiste, municipalité socialiste. Je n'aurai pas la cruauté de revenir sur ce dossier qui a été mais foireux à un point inimaginable et qui à ce jour n'a toujours pas bougé d'un poil. Néanmoins, je tiens à rappeler que donc il y a énormément de différences, notamment sur le plan juridique, parce qu'à l'époque où il était question de voter cette garantie d'emprunt à Mistral Habitat, il n'était absolument pas obligatoire pour la commune, juridiquement, de cautionner cet emprunt. Alors, pas du tout. Nous n'étions pas soumis à un quota de logements sociaux, et cette opération, encore une fois foireuse à bien des égards, n'était absolument pas indispensable pour la commune, disons, une opération d'une telle ampleur. Autre différence de taille par rapport à l'opération Mistral Habitat, c'est ici, nous sommes dans une toute petite opération, dans un contexte juridique qui est tout à fait différent, puisque là, l'opérateur, lui, maintenant, enfin, l'investisseur, le promoteur, est obligé de, à chaque fois qu'il construit un certain nombre de lots, obligé d'en réserver pour du logement social. Donc voilà, là, pour le coup, on est obligé. Par contre, pour répondre aussi à votre question, est-ce qu'il y a une demande? Oui. Je ne pense pas qu'il y ait une demande, qu'il y avait une demande à l'époque pour la SARL de Lys de Mistral Habitat. Par contre, pour ce type d'habitat qui est très recherché, qui ressemble un petit peu à l'habitat des ormeaux, mais en plus qualitatif, là, il y a une forte demande. Il y a beaucoup moins de demandes pour du locatif sous forme d'immeuble, comme c'était le projet de Mistral Habitat. Par contre, il y en a beaucoup plus pour de l'habitat pavillonnaire, avec le petit terrain, le petit jardin, l'aspect lotissement. Là, il y a une demande. Il y a effectivement une demande, il y a un besoin. C'est aussi la raison pour laquelle nous investissons quand nous le pouvons sur du logement dans le centre-village, parce qu'on sait que l'on peut mettre à la disposition des personnes à revenus modestes ou des jeunes couples qui se lancent dans la vie des logements à un loyer très 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 abordable, qui souvent est occupé à titre transitoire, parce qu'après ils recherchent autre chose, ils recherchent notamment ce type de logement pavillonnaire avec un bout de jardin, un bout de terrain. Donc voilà, on n'est vraiment pas du tout dans le même contexte. Alors, pas du tout. En plus, ça me permet de rappeler et de vous renvoyer à l'article 7 de la convention que nous devons adopter aujourd'hui, qui là impose à Grand Delta Habitat de réserver une partie de ses logements dits sociaux, enfin l'attribution de ses logements sociaux à la commune. Et j'avais à l'époque insisté auprès de l'équipe qui avait géré l'équipe municipale qui avait géré l'opération de Mistral Habitat. J'avais demandé à ce qu'il y ait au moins un quota réservataire pour la commune, et je m'étais fait opposer une fois de le recevoir. Il n'en avait pas été question. C'était très 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 dommage. Donc là, en plus, on obtient la possibilité nous-mêmes de pouvoir attribuer ces logements qui vont être construits en direct. Franchement, c'est une grande liberté, tant il est important de faire attention à qui l'on met et à quel endroit dans les logements.
Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, mais voilà, on n'est pas du tout dans le même contexte, ni juridique, ni en termes de volume, ni en termes d'organisation, de prestation. Et en termes de demande, encore une fois, ce type de logement, d'habitat, correspond beaucoup plus à la demande actuelle que les logements qui étaient proposés à l'époque par Mistral Habitat.
Bien. Et pour info, combien de logements à loyer modéré sont construits en gros sur la commune? Ah, question piège.
Non, ben je peux vous donner le chiffre exact la prochaine. Mais à partir de maintenant, il y a eu un changement de la réglementation et à partir de, je crois que c'est 8. Oui, à partir de 8 logements, il y a une obligation de réserver une proportion de logements dits sociaux. Mais si vous voulez, on pourra vous donner les chiffres, parce que c'est effectivement un indicateur très intéressant.
Bien. Bon, je vais quand même finir.
Oui, vous en
prie. Donc, je reviens à ce fameux logement. Dans vos grands projets 2020-2026, vous proposiez de racheter le logement HLM inachevé de Mistral Habitat pour 1 € symbolique, afin de construire une structure pour nos seniors. Qu'en est-il aujourd'hui, en sachant pertinemment que votre intention de racheter ces bâtiments à ce prix est irréalisable, car le devenir de ces logements est entre les mains des juristes et des assureurs? Pour rappel, à ce jour, Mistral Habitat n'a pas l'intention d'abandonner ce projet. Aujourd'hui, quelles sont vos actions pour sécuriser et limiter les dégradations de ces bâtiments qu'on constate régulièrement?
Alors, parmi les nombreux désagréments que nous inflige cette verrue, parce qu'il faut pas parler de, on peut pas parler d'autre chose que d'une verrue, il y a le fait qu'effectivement, c'est un immense terrain qui est très très mal clôturé, donc nous ne sommes pas propriétaires. On n'a aucun biais, aucun moyen juridique pour faire quoi que ce soit à la place du propriétaire, qui est toujours Mistral Habitat. Donc quand nous constatons une dégradation, on ne manque pas d'en avertir le propriétaire Mistral Habitat, et par chance, au bout de quelques semaines, quelquefois, effectivement, il rafistole les clôtures. Mais là, il s'en est passé des vertes et des pas mûres, c'est pas fini. Il y a plein de choses qui se passent là-dedans. Tout le monde rentre, tout le monde vandalise, tout le monde squatte. Malheureusement, il y a une personne qui s'est suicidée. Enfin, voilà, c'est un cauchemar. Ce projet de HLM de Mistral Habitat, c'est un véritable cauchemar pour la commune.
Oui, j'en parle justement de la sécurité, parce que pas plus tard, il y a 2 jours, il y avait des gamins qui jouaient là-dedans.
Oui, on en est bien conscient. Monsieur Bancorsi.
Ah, c'est bon, ça va. Oui, monsieur le maire, je suis étonné de vous voir hilar devant cette situation, en pensant, je vais quand même vous dire une chose assez sérieuse. Monsieur le maire, est-ce qu'une fois, je vous ai manqué de respect? Non, c'est bien sûr non. Alors pourquoi?